Le bureau de Diane Raphaël était une grande pièce traversante tout en longueur qui offrait des vues rares sur Paris. D'un côté, la basilique Sainte-Clotilde, de l'autre, l'église Saint-Sulpice, le dôme du Panthéon et la butte Montmartre. Ici, j'ai l'impression d'être dans le nid de pie d'un bateau pirate. Le regard porte si loin qu'on voit arriver les orages, les tempêtes et les dépressions. C'est pratique pour une psychiatre. La médecin sourit à sa propre métaphore, comme si elle venait de l'inventer à l'instant même. Comme lors de sa visite à Fayolle, Madeleine se dit qu'elle avait eu tout faux. Elle s'était imaginé une sorte de vieil instit à lunettes et chignons gris. Dans la réalité, Diane Raphaël était une femme de petit gabarit, au regard espiègle, aux cheveux courts et aux mèches virevoltantes. Avec son blouson de cuir fauve, son jean ajusté et sa paire de gazelles proprettes, elle donnait l'impression de se rêver encore en étudiante bohème. Elle avait laissé près de la porte d'entrée une valise à roulettes protégée par une coque vif argent. « Vous partez en vacances ?» demanda Madeleine. « À New York, » répondit la psy. « J'y passe la moitié de mon temps. » Elle désigna plusieurs photos affichées sur les murs. Des clichés aériens qui représentaient un bâtiment de verre posé entre la forêt et l'océan. Il s'agit du Lawrence Children's Center, un centre médical pour enfants que j'ai fondé grâce à Sean. Il se situe à Larchmont, au nord de New York, dans le comté de Westchester. C'est Lawrence qui a financé directement cet hôpital ? Directement et indirectement, précisa Diane. Les fonds proviennent d'une part du produit de la vente de deux grandes toiles que je lui avais achetées pour une bouchée de pain en 1993 et que j'ai revendues lorsque sa cote a commencé à flamber. Ensuite, Sean a eu vent de mon projet et il m'a donné trois autres toiles en me permettant de les mettre aux enchères. Il était très fier que sa peinture serve à quelque chose de concret. Soigner des enfants dans le besoin. Madeleine consigna l'information quelque part dans sa tête pendant que la psy prenait place derrière son bureau. Diane changea de sujet. « Donc, vous avez retrouvé les trois dernières toiles de Sean. Félicitations. Et merci pour vos photos. Les tableaux ont l'air magnifiques. La quintessence de Lawrence, » affirma-t-elle en invitant Madeleine à s'asseoir en face d'elle sur une chaise Vassili. L'ensemble de la pièce était meublé dans le style Bauhaus. Siège en tube d'acier courbé, fauteuil cube, chauffeuse Barcelona, lit de jour capitonné, table basse chromée en bois stratifié. « Vous savez ce que ces toiles représentent ?» demanda Madeleine en se calant dans le fauteuil. « La peinture de Sean ne représente pas. Elle présente, je sais, on m'a déjà servi la formule. Mais à part ça... » La psychiatre fut piquée au vif. Vexée puis amusée, elle capitula. À travers ces tableaux, Sean a voulu rendre compte de ses deux EMI, ses deux expériences de mort imminente. Donc, vous étiez au courant? Pour les tableaux, non. Mais je ne suis pas étonnée. Sean était mon patient depuis 20 ans. Comme je l'ai déjà précisé à Monsieur Coutances, en 2015, Sean a subi deux très graves accidents cardiaques à quelques mois d'intervalle. Deux infarctus qui l'ont plongé dans le coma avant qu'il puisse être réanimé. Le deuxième arrêt cardiaque s'est doublé d'un choc septique. Une septicémie ? Oui, une très grave infection bactérienne qui a failli l'emporter. Il a même été déclaré cliniquement mort avant de s'en sortir miraculeusement. C'est après ces deux accidents qu'il a commencé à peindre ce qu'il avait vécu ? Je le pense. Il était très exalté par cette expérience. Ce passage des ténèbres à la lumière l'avait marqué. Il l'interprétait comme un éblouissement, une renaissance. D'où sa volonté de retrouver cette sensation à travers ses peintures. « Ça vous a surprise ?» Elle haussa les épaules. « J'ai travaillé 15 ans à l'hôpital. Des patients réanimés qui affirment avoir traversé un tunnel de lumière après un coma, c'est banal, vous savez. Les EMI sont un phénomène qui existe depuis l'Antiquité. Sean avait gardé des séquelles physiques de ses opérations ? Forcément. Des problèmes de mémoire, une extrême fatigue. » Des difficultés à coordonner ses gestes. Diane s'arrêta au milieu de sa phrase. Ses yeux pétillaient de malice et d'intelligence. « Vous ne m'avez pas tout dit, n'est-ce pas ?» Madeleine resta de marbre, attendant que la psy continue. « Si vous avez tant insisté pour me voir, c'est que vous avez trouvé autre chose. Peut-être un autre tableau ?» Madeleine sortit son téléphone et montra à Diane la photo du dernier tableau. Dans l'obscurité, avec le message en lettres lumineuses qui affirmait « Julian est vivant ».
C'était donc ça.
Ça ne semble pas vous étonner. Diane posa les coudes sur le plan de travail de son bureau et croisa les mains comme si elle s'apprêtait à prier.
Vous savez pourquoi Sean était bouleversé par ces deux voyages aux frontières de la mort? D'abord parce que, dans le fameux tunnel de lumière, il avait aperçu toutes les personnes décédées qui avaient compté dans sa vie. Sa mère, ses copains de Harlem qui, dans les années 1990, étaient morts d'overdose ou avaient été pris dans la violence des guerres de gang. Il a même vu Béatrice Muñoz.
« C'est un grand classique des EMI, » fit remarquer Madeleine. « Vous revoyez votre existence et tous les morts qui ont eu de l'importance pour vous.
On dirait que vous en parlez en connaissance de cause.
Restons-en à Lawrence, si vous le voulez bien. Je ne suis pas votre patiente. »
La psy n'insista pas. « Il y a quelqu'un que Sean n'a pas vu dans le tunnel, » déclara-t-elle.
Madeleine comprit enfin et son sang se glaça.
« Son fils !»
Diane hocha la tête.
Tout est parti de là, en effet.
Sean a commencé à développer une théorie délirante comme quoi, s'il n'avait pas croisé Julian, c'est que ce dernier était encore en vie.
Et vous n'y croyez pas?
Je crois aux explications rationnelles du phénomène. La moindre oxygénation du cerveau qui perturbe le cortex visuel, l'effet des médicaments qui altèrent la conscience. Dans le cas de Sean, c'était flagrant. Pour circonscrire sa septicémie, on lui a injecté des doses massives de dopamine, une substance qui favorise les hallucinations.
Vous n'avez pas essayé de le raisonner ?
Elle eut un geste d'impuissance.
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Sean avait besoin de croire que son fils était toujours en vie.
Vous ne pouvez rien contre quelqu'un qui n'est pas disposé à vous écouter.
Et quelle conclusion en a-t-il tiré ?
Je pense qu'il aurait voulu reprendre l'enquête sur l'enlèvement de Julian, mais que la mort l'en a empêché.
Pour vous, il n'y a aucune chance que le gamin soit vivant.
Non. Julian est mort, malheureusement. Je ne porte pas Pénélope dans mon cœur, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle n'ait pas raconté la vérité. Tout le reste, ce sont les délires d'un homme qui était mon ami, mais qui était cabossé par la douleur et abruti par les médicaments.
4.
L'embarquement du vol AF-118 à destination de Madrid va commencer porte 14. Les familles avec des enfants en bas âge ainsi que les passagers des rangs 20 à 34 sont invités à se présenter en priorité.
Madeleine vérifia son numéro de siège sur le billet qu'elle venait d'imprimer à une borne Air France. Noël était dans 2 jours. Il y avait des retards en pagaille et le terminal E de Charles de Gaulle était bondé.
Merci de m'avoir accompagné, Gaspard. Je sais que vous n'aimez pas les aéroports.
Il ignora la petite pique. Donc, vous partez, comme ça. Elle le regarda sans comprendre où il voulait en venir.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre?
Vous considérez que vous avez terminé votre boulot juste parce que vous avez retrouvé les tableaux?
Oui. Et la suite de l'enquête?
Quelle enquête?
L'enquête sur la mort de Julian.
Elle secoua la tête.
On n'est pas flic, Coutances, ni vous ni moi, et l'enquête est bouclée depuis longtemps.
Elle essaya de rejoindre la zone d'embarquement, mais il s'interposa.
Ne me parlez pas comme si j'étais débile.
Oh, ça va.
Toutes les zones d'ombre sont loin d'être levées.
Vous pensez à quoi?
Juste un détail, ironisa-t-il. On n'a jamais retrouvé le corps de l'enfant.
C'est normal, il a coulé dans l'East River.
Honnêtement. Est-ce que vous avez le moindre doute sur sa mort?
Comme il ne répondait pas, elle insista.
Est-ce que vous croyez que Pénélope Lawrence vous a menti? Non, reconnut-il. Dans ce cas, arrêtez de vous triturer le cerveau.
Ce gamin est mort il y a 2 ans.
C'est un drame, mais il ne nous concerne pas.
Retournez à vos pièces de théâtre, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Sans lui répondre, il l'accompagna jusqu'au contrôle de sécurité.
Madeleine retira sa ceinture qu'elle déposa dans un bac, y ajouta son blouson et son téléphone.
Allez, au revoir Gaspard. Vous avez la maison pour vous tout seul. Je ne suis plus là pour vous embêter. Vous allez pouvoir écrire tranquillement.
Il pensa à ce concept grec, le kairos, l'instant crucial, et à l'art de savoir saisir ce moment, la capacité à ne pas laisser passer sa chance lorsqu'elle se présente. et qu'elle peut faire basculer la vie dans un sens ou dans l'autre. Le type de virage qu'il n'avait jamais su bien négocier dans sa vie. Et là encore, Gaspard chercha quelque chose à dire pour dissuader Madeleine de partir. Puis il renonça. De quel droit? Pourquoi faire? Elle avait sa vie, un projet qui lui tenait à cœur, pour lequel elle s'était battue. Il s'en voulut même d'avoir eu cette idée et lui souhaita bonne chance. « Bon courage, Madeleine. Vous me donnerez des nouvelles ?»« Comment le pourrais-je, Gaspard? Vous n'avez pas le téléphone ?» Il pensa que pendant des siècles, les gens avaient correspondu sans avoir de téléphone. Mais il se retint d'en faire la remarque. « Laissez-moi votre numéro, c'est moi qui vous appellerai. » À sa tête, il comprit qu'elle n'y tenait pas particulièrement, mais elle finit par céder et il lui tendit le poignet de sa main bandée pour qu'elle y note son numéro, à l'arrache, comme s'il avait 14 ans. Puis elle passa le portique de sécurité, lui adressa un dernier salut de la main et s'en alla, sans se retourner. Il la suivit tant qu'il put du regard. C'était étrange de la quitter comme ça, étrange de se dire que tout était fini et qu'il ne la reverrait plus. Ils n'avaient passé que 2 jours ensemble, mais il avait l'impression de la connaître depuis beaucoup plus longtemps. Lorsqu'elle eut disparu, il resta plusieurs minutes immobile, comme sonné. Qu'allait-il faire à présent? Il était tentant de profiter de sa présence à l'aéroport pour aller dans un comptoir Air France et acheter un billet pour Athènes. Pendant quelques secondes, il joua avec l'idée de se tirer de l'enfer parisien, de cette civilisation qui la borait et qui ne voulait pas de lui. S'il prenait un avion aujourd'hui, il retrouverait dès ce soir son île grecque. Une vie solitaire, à l'écart de tout ce qui blessait. Les femmes, les hommes, la technologie, la pollution, les sentiments, l'espérance. Il hésita longuement, mais finit par renoncer à ce projet. Il ne savait pas quoi précisément, mais quelque chose le retenait à Paris. Il sortit du terminal, puis prit sa place dans la file des taxis. L'attente fut moins longue qu'il ne l'avait craint. Il demanda au chauffeur de le ramener dans le 6e arrondissement. Puis, il s'entendit formuler une phrase qu'il n'aurait jamais pensé prononcer. « Vous pourrez me laisser devant une boutique Orange. J'ai besoin d'acheter un téléphone portable. » Pendant tout le trajet, il se mura dans ses pensées et, le cœur lourd, fit défiler dans son esprit l'histoire terrible que lui avait racontée Pénélope Lawrence. Un récit jonché de cadavres, de larmes et de sang.